Elle emploie près de 300 personnes à Delémont et une cinquantaine de collaborateurs à l'étranger. L'entreprise à laquelle on s'intéresse aujourd'hui est l'une des plus grandes du canton du Jura. Mais ce n'était pas l'objectif premier, comme l'a expliqué notre invité. Ce développement s'est fait naturellement en fonction de la demande et des besoins. Il faut dire que la société en question vend des machines-outils dans le monde entier depuis 45 ans, principalement dans les domaines de l'horlogerie et du médical. Basée dans la capitale jurassienne, elle possède des filiales aux États-Unis, en Russie, en Chine ou encore en Inde. L'entreprise se veut à la pointe des dernières technologies. Elle a d'ailleurs souvent proposé des machines en première mondiale. La concurrence est toutefois bien là et la société travaille perpétuellement sur de nouvelles solutions. Notre invité me confie d'ailleurs qu'il a toujours un peu l'impression de travailler dans une start-up. Olivier Aigli, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Alexandre Rosset.
Olivier Aigli, vous êtes co-directeur de Vimema Codel avec votre frère Patrick. Alors ensemble, vous avez repris il y a quelques années la direction de l'entreprise à votre père Blaise Aigli. Vous êtes revenu en 2003 à Vimema Codel après un parcours dans le monde de la finance. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix ?
Alors, suite à mes études à Neuchâtel, je suis parti d'abord dans le monde de la révision. Je me suis assez rapidement rendu compte que ce n'était pas ce que je souhaitais faire pour ma carrière. Et il m'en manquait le rapport avec le produit. Ensuite, je suis donc allé dans l'horlogerie, mais principalement dans l'analyse financière, où j'ai passé quelques années. J'ai pas mal appris. C'était une société américaine cotée en bourse. Donc, c'était très intéressant. Mais là encore, le fait est qu'à cet âge, j'étais relativement jeune. On se lasse peut-être un peu plus vite. Et il y a eu l'appel de la boîte. C'est venu parce que, encore une fois, le rapport avec le produit, on travaillait avec l'horlogerie, le médical, des domaines intéressants, plein développement. Et puis, ce n'était pas forcément une volonté, mais il y a eu cette possibilité. Et puis, j'ai intégré la société pour apprendre le métier.
Donc, ce n'était pas quelque chose que vous aviez déjà en tête en étant plus jeune. Vous n'aviez pas forcément l'envie de succéder à votre père déjà depuis tout petit.
Ce n'était pas vraiment une question non plus. Alors, j'avais fait quelques piges chez Vimema Codel suite à mon diplôme de l'école de commerce de Delémont. Mais là encore, après, j'ai continué mes études à Neuchâtel. Je suis resté sur Neuchâtel, la région des Lacs. Dans un premier temps, c'était pas une volonté, non. C'est venu petit à petit, mais non, c'était pas une volonté.
Et vous avez donc plutôt fait des études dans le domaine du commerce, des finances. La transition dans le monde très technique des machines-outils, ça n'a pas été trop dur?
Alors, j'ai commencé dans la société par m'intéresser aux aspects financiers, ressources humaines. Donc ça, la transition s'est faite petit à petit. Et forcément, lorsqu'on veut travailler au RH dans une boîte qui est dans la technique, il faut s'intéresser à la technique parce qu'on doit engager, on doit parler avec des gens qui viennent de la technique. Et puis en même temps, on doit vendre aussi des produits techniques. Et c'est venu aussi avec le temps. Il a fallu apprendre, il a fallu poser des questions. Il ne faut jamais avoir peur de poser des questions. Et puis, apprendre petit à petit. Maintenant, ça fait 15 ans. On apprend tous les jours encore quelque chose. En plus, c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Donc, on a encore la chance de pouvoir encore continuer à apprendre.
Et revenir dans l'entreprise en tant que fils d'eux, on imagine que ce n'est pas forcément facile au début. Comment ça s'est passé pour vous ?
C'est jamais très facile. Après, d'autant plus que je suis le fils du fondateur, relativement charismatique, osons le dire. Non, c'est pas toujours évident parce qu'on peut être comparé, je pense. Mais il faut prouver par le travail, par sa volonté, par ce qu'on peut proposer, comme mon frère aussi a dû le faire, qu'on a les capacités à reprendre la société, à la pousser de l'avant. Et ce n'est pas quelque chose qui est donné. Si on n'avait pas eu les capacités, j'ai suffisamment confiance en mon père, en notre père, pour qu'il ne nous ait pas offert la possibilité de reprendre la société.
Alors justement, vous travaillez avec votre frère, votre père est également encore régulièrement présent. Travailler en famille, c'est un avantage ou un inconvénient pour vous ?
Je travaille en famille depuis suffisamment longtemps pour ne pas pouvoir vous répondre. Donc ça peut être un avantage et un inconvénient. Mais globalement, ça donne des séances de direction, des conseils d'administration un peu mouvementés parfois, parce que on se dit les choses, on essaie d'aller de l'avant, chacun se bat pour ses idées. Mais on tire à la même corde, on a la volonté de faire progresser la société, on essaie de penser à la société avant le reste. Non, globalement, c'est un avantage. Et puis encore, le fait de pouvoir bénéficier des conseils et de l'expérience de notre père reste quand même encore un plus. Mais avec mon frère, on s'est partagé les rôles aussi, de sorte à ce que chacun puisse travailler dans des domaines bien spécifiques sans, je dirais, trop se marcher sur les pieds.
Olivier Aigli, on va maintenant s'intéresser à l'entreprise en tant que telle. Elle a donc été fondée en 1974 à la suite d'une idée de votre père. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ?
Alors mon père, lui, revenait du canton de Vaud. Il avait acquis une assez large expérience dans le domaine industriel, notamment au niveau horloger. Et il a eu cette envie de revenir dans le Jura. On est jurassien, on est attaché à notre partie de pays là. Mais il a eu l'idée de revenir et puis avec la volonté de vouloir faire connaître le savoir-faire jurassien. Il voulait là, à ce moment-là, proposer une machine qui permettait aux horlogers de copier les boîtes de montres de forme, c'est-à-dire sortir de la boîte ronde. Il a trouvé pour ça un partenaire, la société Vima Machine. Ils ont développé une machine, donc Vima Machine, société partenaire ensuite pendant 30 ans, a développé et produit les machines et Vima Macodel les a vendues, a réalisé les applications et a mis le service après-vente en place. Et donc l'idée de base, c'était cette machine qui permettait de développer des boîtes de montres de formes diverses et qui a été un assez grand succès. On a tendance à dire que c'est la plus grande erreur marketing de mon père, dans le sens où il voulait en vendre une cinquantaine, on en a vendu à peu près 700.
Donc, vous l'avez dit, les deux sociétés évoluent un peu en parallèle, Vima et Macodel de l'autre. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, elles se sont unies ?
La vie des sociétés. Ouais. Les collaborations, les relations évoluent aussi à l'intérieur des sociétés, à l'intérieur des familles. Et voilà, les choses ont évolué de telle manière qu'en 2003, il est venu sur la table le fait de racheter la société Vima Machine, qui était notre société partenaire pendant 30 ans. C'est ce que nous avons fait. Et puis, nous avons fusionné les activités des sociétés en 2004.
Vima Macodel a sorti plusieurs machines en première mondiale. Quelles sont celles qui ont le plus marqué la branche, si on veut ?
Alors, cette petite machine pour copier les boîtes de montres de forme, je pense bien marquer la branche. Ensuite, nous avons été parmi les tout premiers à sortir des machines 5 axes à commande numérique, pour laquelle d'ailleurs nous avions reçu un prix à l'époque. Bon, ça c'est vieux. Et également, nous avons été les tout premiers à présenter des machines mixtes, c'est-à-dire capables de réaliser du tournage et du fraisage sur la même machine. Et ça, ça a été un très grand avantage. Ça permettait de réaliser des pièces complexes en un seul cycle. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui représente le gros de nos ventes. C'est l'élément sur lequel on se différencie de nos concurrents. Notamment, on a quelques concurrents qui sont aussi sur le même marché, mais c'est par ce biais-là qu'on se différencie.
Alors, il y a 10 ans, vous inauguriez votre nouveau bâtiment en zone industrielle de Delémont. Depuis, vous êtes passé de 180 à 280 employés. C'est un développement important, alors qu'on pourrait peut-être imaginer l'effet inverse avec la digitalisation, la robotisation.
Oui, alors on travaille aussi beaucoup sur la digitalisation. On a passablement digitalisé les flux administratifs. Notamment, mais également au niveau de pour les solutions vendues à nos clients. Mais ça demande des ressources. Ça demande des ressources spécifiques en termes de soft, informatique, d'ingénierie. C'est des projets qui deviennent beaucoup plus complexes, beaucoup plus lourds à gérer, de plus grande envergure aussi. Et c'est ce qui explique le développement. Donc, l'effort qu'on a mené dans ces domaines-là, automation, robotisation, notre but, c'est d'offrir des solutions complètes, nous a permis de nous profiler auprès de grands groupes, horlogers, médicaux ou aérospatiaux dans certains cas. Et ça nous a permis de participer à des projets d'envergure, ce qui a permis le développement de la société, le développement positif, puisque, ouais, comme vous l'avez dit, on est à près de 280 personnes aujourd'hui, plus une cinquantaine à l'étranger.
Olivier Aigli, je vous propose à présent de nous rendre dans les locaux de Vima Macodel à Delémont. Alors, on y trouve bien sûr beaucoup de machines, mais de nombreux stages sont aussi réalisés manuellement. Jean-Michel Probst a visité le centre de production en compagnie de Julien Lalot, responsable des applications techniques. Reportage.
Sortie de boîte.
Le bureau technique a conçu la machine, a conçu les spécialités pour le client. Ensuite, les achats ont passé commande pour les différentes pièces qui vont composer la machine. Et puis là, ici, on se trouve dans la halle de réception, qui est d'ailleurs aussi la halle d'expédition. La machine finale repasse par ici. Et puis là, vous pouvez voir toutes les pièces ou des grosses parties de machines qui vont après suivre un certain flux et composer la machine finale.
Quel est votre prénom ?
Meluccio Umberto.
Berthaud, vous travaillez sur quel type de machine là ?
Sur des 408.
Qu'est-ce qu'elles font ces 408 ?
Ouais, elles font du fraisage sur trois axes.
Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez de l'assemblage ?
Oui, là, j'ai fini l'assemblage de la partie, disons, purement mécanique, et puis je vais faire une géométrie. Mm-hmm. Puis après, ben, mon travail, il termine ici. Ça passera à la suite où ils vont assembler le reste, les circuits de refroidissement, pneumatiques, et ainsi de suite.
Voilà, vous voyez là, on a vu les étapes avant. Là, on voit que la motobroche est déjà sur la machine. Le magasin d'outils est sur la machine, le diviseur. Puis après, on va venir caréner tout ça. On a aussi la commande numérique qui est maintenant en fonction.
Et c'est quand même assez fascinant de voir l'évolution d'une machine. On a commencé avec de petites pièces et puis finalement on voit évoluer tout ça.
Voilà, ça se monte et puis après la mise en fonction, on peut presque dire que ça prend vie, quoi. Ça se met en mouvement, ça bouge. On a une grande partie automatisation. Peut-être que Stéphane peut nous expliquer un petit peu ce que le robot sera capable de faire au final.
Oui, il n'y a pas de souci.
C'est vrai qu'on voit un bras, on sait que la robotisation est importante et elle va même au-delà de ce que nous on imagine parfois. Qu'est-ce qu'elle fait la machine qui est derrière vous ?
Là, le but du jeu en fait avec ce robot, c'est de pouvoir faire de la pièce unitaire mais de série. Donc le robot, il configure la machine à chaque nouvelle pièce. Il va changer des éléments dans la machine de façon à pouvoir faire des pièces complètement différentes et qui nécessiteraient de changer la machine, changer des éléments, des pinces de serrage par exemple. On vient les changer avec le robot et le robot est capable de changer toutes les pinces de serrage qu'il peut y avoir dans la machine pour pouvoir faire une pièce, style une bague, quelque chose comme ça dans la joaillerie et puis de faire une autre pièce complètement différente et tout ça en automatique.
Ce bras de robot, c'est vraiment, on peut le dire, hein, c'est un gros bras, mais qui va travailler vraiment dans le minutieux.
Il va travailler dans le minutieux et il va travailler, je dirais après, en permanence, avec différentes pièces, différentes matières. On va avoir pas mal de choses pour pouvoir produire cette pièce, justement.
Sortie de boîte.
Olivier Aigli, on l'a entendu, la robotisation prend toujours plus de place. C'est un défi pour vous ?
C'est un défi, mais juste entre parenthèses, ça permet de voir qu'une entreprise est constituée, la force de l'entreprise est constituée des hommes qui y travaillent. Bah ça, je tiens à le relever. Mais la robotisation, l'automatisation, c'est un défi, oui, parce que c'est à nous. Comment dire ça ? On doit y aller parce que. On doit automatiser nos machines, on doit automatiser les solutions, on doit les rendre plus flexibles, plus simples à utiliser. Et on sent que les métiers aussi changent dans ce domaine-là. Je pense qu'on a pris le virage, que le virage qu'on a pris il y a à peu près 5 ans était le bon. En renforçant, en travaillant beaucoup sur ces aspects-là, on voit qu'il y a encore énormément à faire. Et dans ce domaine-là, les limites sont fixées par le ciel et le ciel et nos clients.
Et voilà, il y a le besoin d'innover finalement pour se démarquer aussi de la concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui elle est plus féroce que peut-être à l'époque de votre père ?
J'en sais rien, la concurrence a toujours été féroce. Après, voilà, les hommes évoluent, les sociétés évoluent. Il y a, je pense, plus d'agressivité, plus d'immédiateté aujourd'hui dans le commerce. On n'a pas le temps d'attendre une réponse ou une solution. Il faut que ça vienne très vite. Et donc, c'est peut-être un élément qui a beaucoup évolué dans le business.
Et il y a aussi la volonté de vous adapter à ce que demandent les clients. Vous me disiez finalement, c'est plus seulement des machines que vous vendez, mais des solutions.
Alors, ce sont clairement des solutions. La machine fait partie de la solution, mais on peut vendre une machine avec un robot, des machines de contrôle et autres, et devoir faire fonctionner tout ça ensemble, le faire communiquer avec différents sites dans le monde. Et ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille passablement et qui ont beaucoup évolué. Et ça nous a obligés aussi à intégrer de nouvelles compétences, telles qu'on a pu l'entendre dans le reportage.
On le disait en début d'émission, vous êtes l'un des plus gros employeurs du canton du Jura. Le fait de devoir gérer une société avec plus de 300 collaborateurs, ça pose des difficultés particulières ?
La difficulté principale quand on parle de collaborateurs, c'est toujours cette capacité à pouvoir attirer les meilleurs collaborateurs possibles, les conserver, pouvoir aussi à l'interne former les collaborateurs aux nouvelles technologies. Donc, du point de vue ressources humaines, c'est un grand travail pour pouvoir s'assurer d'avoir les bonnes ressources en fonction des objectifs qui sont fixés. C'est là qu'est le plus grand challenge.
Et justement, c'est l'aspect formation vous tient particulièrement à cœur. Vous avez développé une filière d'apprentissage technique. Mm-hmm. C'est indispensable justement pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée, si on veut.
C'est archi nécessaire. Il le faut parce que là, on ne va pas aller chercher. Il nous faut nous créer notre propre main-d'œuvre parce que ce sont des formations qui nécessitent beaucoup de savoir-faire. Tous nos collaborateurs ont un CFC et nous avons créé cette filière parce que aussi nous avons beaucoup de baby-boomers dans la société. Et comme je l'ai déjà dit souvent, les baby-boomers ont un gros avantage, c'est qu'ils sont en principe très fidèles, mais un gros désavantage, c'est qu'il n'y en aura plus un dans 10 ans dans la société. Donc on doit les remplacer, on doit remplacer leur savoir-faire.
Il y a aussi, pour vous, c'est aussi important de valoriser ces métiers qui sont parfois peut-être un peu dénigrés dans le métier technique, pas forcément assez mis en avant.
Alors, pour moi, c'est extrêmement important. Je me bats. Dès que j'ai l'occasion de le faire, je me déplace pour défendre ces métiers, les valoriser auprès des garçons, des filles, démontrer ce que c'est qu'aujourd'hui la mécanique. On travaille dans des environnements propres, on travaille dans des environnements technologiques, on parle d'informatique, de robotique, d'automation, enfin, de toutes ces choses qui sont dans l'air du temps, qui font l'actualité. Et voilà, on est dedans. Donc, je pense qu'il y a de quoi motiver les jeunes à venir chez nous, dans nos métiers.
Olivier Aigli, nous allons maintenant évoquer l'avenir de Vimem à Codel. Alors un avenir qui passe par un grand projet d'agrandissement sur le site de Delémont. Vous êtes trop à l'étroit aujourd'hui ?
Oui, clairement, on est trop à l'étroit. Comme on dit, quand on a déménagé à Delémont, nous étions 180. Le bâtiment actuel n'est pas adapté à 280 personnes. Déjà pour des problématiques de locaux sociaux, il faut bouger, il faut construire, mais également l'évolution de la technologie, l'évolution des demandes des clients et autres nous oblige aujourd'hui à disposer de plus d'espace pour pouvoir produire ces fameuses solutions. Également, nous avons un grand projet de revue complète des flux dans la société actuellement qui implique énormément et qui demande beaucoup à nos collaborateurs. Et tout ça va nous porter à la mi-2020 où nous espérons nous être renouvelés encore une fois. Mais c'était une nécessité de construire ce bâtiment.
Et il y a aussi la volonté d'avoir plus d'espace pour faire de la recherche, des essais, des expérimentations.
Il le faut. Donc aujourd'hui, on a quand même un département prototype qui occupe pas loin d'une dizaine de personnes. On doit tester nos produits, on doit tester nos flux organisationnels, on doit tester beaucoup de choses. Oui, alors il faut se donner ces espaces de créativité parce qu'aujourd'hui, dans une société moderne, c'est important.
Et vous allez aussi installer des panneaux solaires sur le toit en collaboration avec les services industriels de Delémont. Ce sera d'ailleurs la plus grande centrale solaire de la ville. Comment est né ce projet, finalement, cette idée ?
Alors, elle est née... Ça avait déjà été vaguement évoqué à l'époque de la construction du premier bâtiment. Ça n'avait pas pu se faire pour des raisons sur lesquelles il n'est pas important de revenir. Mais il est né aussi sous l'impulsion des SI, des SID, de messieurs Hirtlin et Teubé, avec lesquels on collabore très bien et avec lesquels on a pu développer ce projet. Et le modèle proposé est parfaitement adapté aux entreprises. Je pense que tant la communauté que les entreprises y trouvent leur compte. Et on est très content de pouvoir proposer une centrale solaire. Après savoir que c'est la plus grande, voilà, c'est pas le plus important. Elle sera disposée sur nos toits d'une certaine dimension. Ben voilà, qu'on les utilise au maximum.
Ça permet aussi d'utiliser, de produire votre propre électricité.
Alors, dans notre idée, ça produira entre 25 et 30 % de nos besoins en électricité. Ce qu'on n'utilisera pas sera réinjecté dans le réseau. Donc, ça va nous permettre pendant 25 ans d'avoir 25 à 30 % de nos besoins d'électricité couverts par la centrale qu'on aura à proximité.
Alors, vous êtes présent à plusieurs endroits dans le monde, donc basé à Delémont, mais aussi aux États-Unis, en Chine, en Russie. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a encore la volonté de vous développer, de peut-être ouvrir de nouvelles filiales ?
Il y a toujours la volonté de se développer. Il faut. Sans cela, on recule. Nos filiales actuelles doivent être également développées, consolidées. L'objectif, c'est toujours d'améliorer la qualité de la relation du service avec nos clients sur place. Il est impensable de vendre une machine aux États-Unis si vous n'avez pas en place une filiale solide. Donc, les clients ne viendront pas chez nous. Et donc, ces filiales doivent être renforcées fréquemment au moyen de bonnes ressources, de nouveaux services proposés. Et oui, je ne vais pas vous dire où, mais effectivement, il y a la volonté de développer de nouveaux marchés en permanence.
Parce que ça devient, c'est compliqué de faire les choses depuis la Suisse. il faut vraiment être sur place pour cette relation, comme vous disiez, entre le client et...
Clairement, l'immédiateté aujourd'hui, un client américain ou chinois va pas attendre une semaine sur une réponse. Il y a l'immédiateté. Là, rien qu'un problème de décalage horaire peut poser problème. Donc effectivement, il faut être aux États-Unis. On est présent, notre filiale est dans l'État de New York, mais nous sommes présents également dans l'Indiana et en Californie, parce que les États-Unis couvrent plusieurs fuseaux horaires. Il faut être à proximité, il faut proposer du service de proximité, il faut montrer qu'on a un vrai intérêt au client, pas seulement celui de vendre une machine, mais celui d'entretenir une relation.
Olivier Aigli, on arrive gentiment au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous pour parler de votre entreprise Vimem à Codel.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Et avant de nous quitter, comme chaque jeudi, Marie-Lise Saillard nous propose sa chronique horlogère. C'est pile à l'heure.
Pile à l'heure.
Vous n'avez pas pu passer à côté de cette info tant elle a suscité l'émoi en France comme dans le monde entier. Un incendie a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril. Sur place ou devant leur écran, de très nombreuses personnes ont ressenti une émotion particulière quand la flèche en flamme s'est écroulée. Et figurez-vous que c'est là, sous la flèche, que se trouvait le mécanisme d'une horloge hors norme, aujourd'hui détruite, dont les quatre cadrans donnaient l'heure. Le dispositif astucieux actionnait aussi les sonneries d'un carillon.
Cloche de Notre-Dame à Paris, qui sonnait les glaces et les carillons, qui sonnait la joie et la peine. Cloche de Notre-Dame à Paris.
Dans le petit monde des amoureux de l'horlogerie ancienne et des horloges d'édifice, on a peur que la pendule de Notre-Dame ne soit jamais reconstituée. Un premier appel a été lancé pour que les morceaux identifiables dans les débris au sol soient conservés. Il ne s'agit certainement pas des parties en laiton qui ont fondu, mais peut-être que des axes en acier ont résisté à la chaleur et à la chute. Olivier Chandet, l'homme qui montait chaque jeudi dans la charpente pour nettoyer, lubrifier, remonter le mécanisme, est particulièrement touché. C'est aussi le cas de l'horloger constructeur Baptiste Viau, technicien en horlogerie ancienne, spécialiste de l'histoire des mécanismes. Il s'est lancé dans une croisade pour reconstruire l'horloge disparue. Certains estiment aussi que les grandes marques horlogères devraient se mobiliser pour cette cause.
Je n'irai pas à Notre-Dame chanter mes petites chansons. Chanter les poètes et leur âme, si près de Dieu dans sa maison.
L'horloge de Notre-Dame de Paris avait été installée en 1867 par la firme Collin, qui avait une usine à Foncine-le-Haut, dans le Jura, en France voisine. Comme les autres horloges de cette génération, elle était intéressante parce que les concepteurs avaient trouvé un système pour mettre les rouages en parallèle, histoire de gagner de la place. On ne connaît pas encore la somme qui sera nécessaire pour reconstruire la cathédrale, mais les dons atteignent déjà 1 milliard d'euros. Peut-être que dans cette enveloppe, une petite partie sera consacrée à l'horloge.
Il est venu le temps des cathédrales.
Cette chronique a été réalisée sur la base d'un article de Libération signé Sybille Vincent Don.
Un nouveau millénaire.
Pile à l'heure.
Sortie de boîte, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission sera de retour la semaine prochaine. Celle de ce soir avec Olivier Aigli, co-directeur de Vimem à Codel, est donc à retrouver sur la page de Sortie de boîte sur notre site internet rjbrtn.rfj.ch. Merci à Claude pour la technique et je vous souhaite une très belle soirée.
Sortie de boîte.